nos préoccupations. C'était...
On joue au foot dans la cour. Voilà.
Est-ce que t'as déjà embrassé une fille avec la langue? Qu'est-ce que t'as tes problèmes d'accès? Jusqu'à quelle heure t'as eu le droit de regarder la télé hier soir? Ah, t'as pas eu le droit de regarder la fin du match?
La fin du film contre l'acné, quoi.
Non, mais c'est-à-dire que les prêts, je parle comme un vieux con, mais je suis désolé. Moi, je viens. J'étais dans un petit collège où la moitié étaient des gars des campagnes comme moi et l'autre moitié des gars et des filles d'une cité. C'était pas le centre-ville. Hein. Bon, alors il y avait toujours deux, trois petits caïds. Hein. Il y avait toujours les mecs qui te disaient je vais te casser la gueule et tout comme ça pour te faire peur. Ça, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu des petits caïds. Mais il n'y avait pas ce. La violence n'était pas au cœur des préoccupations et des discussions.
Bah, les réseaux sociaux ont brisé en fait la barrière entre l'insouciance et le tout savoir.
C'est bien dit ça.
C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a accès à tout. Si on veut voir quelqu'un tuer quelqu'un, on a accès sur TikTok ou sur Twitter à la vidéo d'un crime commis. Donc en fait, évidemment qu'un jeune de 13 ans, il voit, il tape Russie, homme en train de tuer un autre homme, imagine. Tu vois des photos de mecs en train de se faire poignarder, donc tu as l'impression que c'est normal.
C'est vrai.
Ça marche comme ça, le cerveau. Hein. Plus tu vois une situation, plus elle se normalise.
Mais après, j'aime bien ce que dit Fred, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, nos préoccupations, c'était l'amour. En fait, c'est idiot, mais c'était les histoires d'amour au collège, au lycée, les premiers bisous.
Bah, entre
on voyait des gamins, effectivement, se rouler des pelles dans la cour, se tenir la main, s'embrasser.
Passer des petits papiers, tu vas marcher
aujourd'hui,
avec moi.
Enfin, je sais pas, Benjamin, je parle sous ton contrôle, mais il y a plus de jeunes qui s'embrassent, il y a plus de jeunes qui se tiennent la main, on parle beaucoup moins de ces histoires d'amour, etc. Tu vois beaucoup de gens s'embrasser dans la rue, d'ailleurs, et tenir la main. Ah bah,
je suis souvent contente parce que je passe devant des lycées et je vois des couples homosexuels qui s'embrassent.
Non, mais d'accord, mais ils ont quel âge? Aujourd'hui, avant, à 13 ans, 14 ans, on se tenait la main.
Ouais. Écoutez,
c'est fini, ça.
Non, mais pour autant, oui, les réseaux sociaux ont impacté un certain nombre de pratiques et ça va pas dans le sens du mieux. Je suis assez d'accord. Pour autant, faut pas idéaliser non plus. Encore une fois, les crimes de sang, on avait eu ces chiffres par Guillaume Fard à l'époque, ils n'ont pas explosé. Ça a plutôt tendance à régresser. Alors effectivement, on disait
le nombre de morts a régressé parce qu'on intervient plus facilement.
Oui, bah
mais,
peut-être.
Mais les agressions.
Mais on était quand même. Moi, quand j'étais ado, on était aussi confrontés. Moi, j'ai assisté gamin à des scènes de violence, à des scènes de violence.
Autant devant, qu'aujourd'hui.
Il y avait du racket. Moi, je me souviens, j'avais 13 ans. Je me suis fait racketter au couteau. Voilà.
C'est la base.
Voilà,
ah bon,
c'est arrivé.
Jamais eu ça.
Sur le, effectivement, Rémi me parlait, il me disait, il donnait la précocité de l'accès à la pornographie via les réseaux sociaux. D'accord. C'est vrai, mais pour autant, moi, je me souviens que au collège circulait sous le manteau un certain nombre de cassettes VHS, etc. Donc, oui, les réseaux sociaux cristallisent un certain nombre de fléaux sociaux et les amplifient. Mais pour autant, les jeunes, moi, je suis en contact avec eux. Les jeunes, ils ont encore, c'est des jeunes qui essaye, comme nous à l'époque, de se dépêtrer dans un monde qui est assez délétère et qui essaye de garder une certaine forme d'insouciance. Parfois, les réseaux sociaux leur servent de bulle pour développer leur propre univers. Mais ils ne sont ni pervers, ni particulièrement violents en général. Ça reste des jeunes qui, pour l'immense majorité d'entre eux, sont des gamins mignons. Il faut pas généraliser, effectivement, sur ce sujet-là comme sur d'autres, à partir d'un fait divers abject. Faut pas faire de généralisation.
Oui, mais c'en est pas qu'un, c'est ça le problème. Sinon, en fait, en vrai, on n'en parlerait pas. Mais là on n'arrête pas depuis 6 mois. Quoi.
Je suis prof depuis 2001, ça fait maintenant 25 ans. Je n'ai croisé qu'une poignée d'élèves dont je sentais qu'ils pouvaient être violents gravement. Donc l'immense majorité des élèves que je croise sont des gamins adorables.
D'accord. Alors nous sommes avec Rudy Mana, c'est notre invité sur ce débat, il est porte-parole de l'Amicale de la Police Nationale. Bonjour Rudy.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Et évidemment, on est avec vous encore une fois à cause d'un drame survenu ce matin. Je le répète, une surveillante de 31 ans poignardée, tuée au couteau par un gamin, un collégien de 14 ans lors d'une fouille inopinée de sacs. Rudiman, je vais pas vous demander si vous êtes surpris, mais c'est vrai que on a l'impression quand même que la violence s'accentue aujourd'hui chez les jeunes. Benjamin nous disait le contraire en tant que prof, mais est-ce que vous, en tant que policier, vous voyez justement une augmentation de cette violence chez les jeunes?
Ah oui, complètement. Alors j'entendais Benjamin Amar qui était prof depuis 2001. Moi, je suis policier depuis 1995. Et depuis 1995, de manière claire, nette et précise, je vois une violence de plus en plus accrue de ces mineurs, notamment, on parle d'un gamin de 14 ans ce matin. Et il faut rajouter, Estelle, qu'on parle d'un gamin de 14 ans qui met un coup de couteau dans la gorge d'une surveillante. Et il faut préciser aussi qu'il y avait les gendarmes lors de ce contrôle.
Et bien sûr, c'est
donc,
ça qui est fou.
Peur, il n'a pas eu peur qu'il y ait des gendarmes à côté parce qu'il savait qu'il allait être interpellé ou il savait qu'il allait avoir une intervention immédiate. Il a quand même osé le faire. Donc imaginez le degré de barbarie de ce jeune. Alors j'entendais Fred Hermel, il a raison. Tous les jeunes ne sont pas des barbares et Dieu merci. On a énormément de gamins qui travaillent correctement à l'école, qui essaient de s'en sortir, qui essaient de travailler pour avoir une vie sociale derrière qui va être correcte. Mais il faut constater, et ça c'est une réalité absolue, c'est une réalité de terrain, qu'on a de plus en plus de gamins qui vont dans la barbarie à travers des actes de plus en plus cruels, de plus en plus sordide et de plus en plus violent. Ça, c'est une réalité de terrain. Et quand je vois ce gamin de 14 ans, c'est complètement fou. Alors, et j'en terminerai là-dessus. C'est dû à quoi? Effectivement, j'entendais tout à l'heure Élie Godefard parler des réseaux sociaux. Oui, je pense que les réseaux sociaux ont une responsabilité. Mais je crois aussi qu'il y a eu un laxisme de nos dirigeants politiques depuis 50 ans qui est tellement gigantesque, qui est tellement abyssal, qu'aujourd'hui, ces jeunes-là n'ont plus peur de rien. Et pour terminer là-dessus, quand je vois un président qui a 5 jours parlé de brainwashing sur des faits divers, mais vous savez quoi? Je ne sais plus quoi dire face à des phrases comme ça, tellement c'est hallucinant, tellement c'est dingue qu'un président dise des phrases comme ça. Ben aujourd'hui, voilà, on est encore, la réalité nous frappe de plein fouet. Une nouvelle fois, on va avoir une famille dans la détresse. Alors on va avoir la ministre de l'Éducation nationale qui va aller devant cette école. Elle va décréter quoi? Une marche blanche? On va mettre des photos partout? On va allumer des cierges partout? Et derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire grand chose parce que c'est un gamin de 14 ans. Et vous savez qu'un gamin de 14 ans, malheureusement, dans la justice française et la loi pénale française, on peut pas faire grand chose contre lui. Alors, bien sûr qu'il va être condamné. Il a tué quelqu'un de sang-froid en lui mettant un petit couteau dans la gorge. Dieu merci qu'il va être condamné. Mais il va pas être condamné à des peines qui vont être très, très, très dures et très longues.
Il va être condamné s'il a toutes ses facultés mentales et s'il était sain d'esprit, entre guillemets, au moment des faits. Non. Et il y aura évidemment une enquête là-dessus, mais on avait parlé également de cette prof d'espagnol qui a été tuée en début d'année par un gamin en plein cours, et là encore il y avait eu une enquête psychologique sur ce gamin. Évidemment que 14 ans tu égorges une surveillance, il va y avoir une enquête psychologique sur cet enfant, savoir s'il était encore une fois
on n'a pas les éléments, il faut garder quand on parle, on n'a pas les éléments aujourd'hui.
Il faut pas non plus avoir ce discours alarmiste de dire les jeunes vont pas en prison. Moi quand j'étais au collège, il y a un mec qui a tué son père pour de la cocaïne, c'était passé partout aux infos.
Ben voilà.
J'avais 15 ans. Bon, le mec, il vient d'être libéré, il a quand même fait 15 ans. Je veux dire, c'est sérieux. Et sa vie est ruinée, il a plus rien et il a tué son père. Donc voilà. Mais non, il avait juste commandité la mort de son père. Donc c'était pas lui directement. Il a quand même pris 15 ans.
Oui.
Voilà. Mais donc les gens sont punis et je pense pas qu'un jeune de 14 ans.
Mais ils ont plus peur de ça, c'est ça que dire.
Je sais, mais
il a
je pense pas
ça.
Qu'un jeune de 14 ans ait conscience du laxisme de l'État, moi, aujourd'hui. Quand t'as 15 ans, tu t'en fous de la politique.
Enfin,
14 ans.
Normalement, à 14 ans, tu sais qu'il faut pas égorger quelqu'un, quoi.
Mais c'est ça
qui est grave.
À part si t'es complètement obsédé par Snapchat, TikTok et tout et que tu tombes que sur des trucs.
Oui, ou par certaines séries. Apparemment, Walking Dead, par exemple, il y a des machettes, il y a eu des rééditions, des machettes qu'on voit dans la série et il y a des gamins qui adorent ça. On peut acheter ces machettes. Ça me paraît fou qu'on puisse vendre une machette.
Enfin, un gamin qui conclut d'avoir visionné Walking Dead, qui passe à l'acte derrière, c'est qu'il y a une grosse faiblesse psychologique. Guillaume Fard, encore une fois, avait bien expliqué que les meurtres d'enfants étaient quelque chose de totalement exceptionnel. Les meurtres commis par des jeunes de cet âge-là restaient très exceptionnels.
Oui, mais il y a eu le fait divers devant un lycée en région.
Mais ça reste
à Paris,
ça reste des exceptions.
Il y a un gamin qui est mort poignardé. Là, il y a un gamin qui est mort poignardé. Le petit Elias, il est mort poignardé. Et je suis désolée, mais cette année, c'était plus une exception.
Exactement.
C'est
dommage qu'on élude des démonstrations à trois semaines d'intervalle.
Si tu permets d'intervenir, il y a un
Rémi Barré.
Il n'y a pas d'explosion.
Non, bien sûr.
De la délinquance en France. Maintenant, pour ce qui est des attaques au couteau, concernant les mineurs, il y a un véritable phénomène. Il y a une multiplication des attaques au couteau dont les auteurs sont des mineurs. Aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, toutes zones confondues, c'est zone police, mais je veux dire tout lieu confondu. Il y a eu 10 000 attaques au couteau l'an passé en France. C'est plus 20% en quelques années. Et il ne faudrait pas qu'on en arrive à la situation de la Grande-Bretagne.
Oui, en Grande-Bretagne.
La Grande-Bretagne, il y a autant d'habitants aujourd'hui en Grande-Bretagne qu'en France. Mmh. C'est équivalent. 50 000. Mmh. 5 fois plus d'attaques au couteau en Grande-Bretagne. Donc 80% sont faites par des mineurs. Mmh. La Grande-Bretagne elle-même, le Premier ministre, on a perdu le contrôle. Oui, il ne faudrait pas qu'on en arrive. Il y a un début de phénomène en France. Il y a un phénomène qui concerne des mineurs. Pour nous, adultes, ça paraît peut-être totalement déraisonné, ça paraît irrationnel. Mais il y a un phénomène qui touche les adolescents sur la violence et
les armes blanches,
les avec les armes blanches.
On continue à en parler dans un instant dans Estelle Midi. Merci à Rudy Mana d'avoir été notre invité. Vous êtes très très nombreux à vouloir témoigner au 32-16 sur cette violence des jeunes, sur cette attaque au couteau ce matin. Une surveillante de 31 ans tuée par un collégien de 14 ans. On continue à en débattre dans un instant sur RMC dans Estelle Midi. À tout de suite.
RMC Midi 15h.
Estelle Midi.
RMC Gold n'est pas en FM ni en DAB+.
Vous voulez écouter RMC Gold dans votre voiture? Téléchargez l'appli RMC. Connectez votre téléphone à votre véhicule en USB ou en Bluetooth.
Lancez l'appli RMC, le lecteur RMC Gold est sur la première page. Vous ne pouvez pas vous tromper.
Maintenant, profitez du meilleur des années 80 et 90.
RMC, pour réagir en direct, 32-16, touche 1.
Touche 1.
Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui?
Sur RMC.
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
À 12h34, vous êtes sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi avec Rémi Barré, Benjamin Hamar, Élise Goldfarb et Fred Hermel. Je vous rappelle ce drame survenu ce matin en Haute-Marne. Une surveillante de 31 ans poignardée, tuée par un collégien de 14 ans. Ce matin, la maman d'Elias, là aussi un lycéen de 16 ans qui a été tué au couteau par deux jeunes témoignés ce matin chez Apolline de Malherbe. Elle disait que certains jeunes étaient devenus des barbares et on débat autour de ça dans Estelle Midi. Nos jeunes, justement, sont-ils devenus des barbares? On a beaucoup de messages, de témoignages au 32-16 et sur l'appli RMC Rémi.
Je vais vous lire ce message de Teddy. Teddy nous dit qu'il est enseignant depuis 12 ans maintenant, qu'il n'a jamais fait grève de sa carrière, qu'il ne se trouve pas représenté par les syndicats, c'est son avis, mais il dit surtout: je suis prêt à faire grève aujourd'hui pour notre sécurité, que les syndicats appellent à la grève sur ce sujet. Les jeunes d'aujourd'hui, nous dit Teddy, sont violents. On nous demande toujours d'en faire plus. Où sont les familles? Où est l'État pour protéger ses agents? Où sont les syndicats pour nous défendre? Ils se sentent seuls, Teddy.
On a Émile également qui est avec nous, qui nous appelle Émilie de Bus, en Eure-et-Loire. Elle est enseignante en EPS au collège depuis 20 ans. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Et vous vouliez témoigner après ce drame ce matin.
Oui, alors déjà ce matin, je voulais préciser, j'ai aussi entendu le témoignage de Stéphanie, la maman d'Elias.
Tout à fait.
Et voilà, ce témoignage, il est glaçant et j'admire cette femme qui a fait preuve de sang-froid et je pense qu'il a pointé du doigt tous les dysfonctionnements du système. Alors moi déjà, j'appelle, je suis enseignante voilà depuis 20 ans et contrairement, alors chaque enseignant, en fonction de où on enseigne, on va tous plus ou moins vous avoir notre point de vue qui peut être très divergent.
Bien sûr.
C'est-à-dire honnêtement, on peut enseigner à 20 km d'écart et pas vivre du tout les mêmes situations quotidiennement. Moi, ce que j'observe, ça fait 20 ans que j'enseigne, donc 16 ans dans le même établissement, c'est qu'il y a une dégradation mais phénoménale liée à l'ultra-violence des jeunes. Nous, enfin, c'est triste ce que je vais vous dire, mais ce que j'ai lu ce matin, ça m'a en effet glacé, mais par contre, ça ne m'a pas étonné. Parce que nous, on y fait face quotidiennement à cette violence des jeunes qui est vraiment de toute forme, verbale, et là on arrive à une violence physique extrême, armée. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, hein. Nos jeunes viennent en cours, nos très jeunes, parce que collège, ça commence à 10-11 ans, nos très jeunes, devant des forces de l'ordre, viennent en cours armés. Je pense qu'il faut se poser la question de ce qu'il y a derrière. Ils n'ont plus peur de rien.
Oui, ils sont...
Nos jeunes n'ont plus peur. Avant, il fallait se fâcher, hausser la voix, leur dire « Ah non, si ça continue, tu finis dans le bureau du chef d'établissement ». Maintenant, honnêtement, et je pense en plus être une enseignante qui a quand même pas mal d'autorité sur ses élèves, certains gamins qu'on repère assez vite, hein, et en plus il y en a qu'on ne repère pas, et même les gamins qu'on repère vite, on est démunis. On est démunis. Et là, je viens d'entendre que le message qu'a laissé un auditeur qu'enseigne depuis 12 ans. Mmh. Oui, en effet, on se sent seul. Moi, je me suis toujours dit, le jour où tu as peur d'aller travailler, faut que tu arrêtes. Ben là, je me pose de sérieuses questions, honnêtement. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ces jeunes? Que fait le système au sens large, hein? Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes-là? Je ne sais pas si vous imaginez, mais enfin, même du temps où vous parliez de votre enfance, on a à peu près le même âge. Hein. Oui, nous, en effet, c'était... je reprends les termes. Hein. Est-ce que tu as déjà embrassé avec la langue, etc. Ouais. Moi, je vais vous dire, la classe de 5e, dont je suis prof principale, on a eu une intervention sur, justement, les dangers des réseaux sociaux, etc. Les jeunes étaient plus choqués de voir deux personnes s'embrasser que de voir un film pornographique.
Ouais, ou une décapitation. Non, mais j'entends, mais c'est terrible ce que vous dites, Émilie. Et vous savez ce qui m'interpelle dans votre témoignage? C'est que vous nous appelez d'Eure-et-Loir. C'est-à-dire qu'en
J'enseigne dans 78 ans. J'enseigne en région parisienne.
D'accord. D'accord, ce que je me disais, là.
Moi, je vais être honnête avec vous. L'établissement de mon fils ne vit pas les mêmes choses. Même si ça se dégrade.
D'accord.
Heureusement, on n'en est pas au même stade. Heureusement, il y a encore des. C'est pour ça que je vous disais bien, en fonction de où on enseigne, on vit pas les mêmes choses.
Bien sûr.
Ce matin, c'était à Chaumont, en Haute-Marne. Oui, près de Chaumont. Hein.
Près de Chaumont, en Haute-Marne. Évidemment. Mais Émilie, quand vous dites il y a de l'ultra-violence, etc., chez nos jeunes, vous, concrètement, ça se traduit comment? C'est-à-dire, c'est des jeunes qui vous répondent, c'est des jeunes qui se battent, ça donne quoi?
Alors, il y a de tout. C'est-à-dire, moi, je vous donne un exemple. Il y a 2 ans, je demandais à un élève de 6e. Donc, 6e, je vous laisse l'âge.
Ouais, 10-11 ans. Ouais.
De jeter son chewing-gum une fois, deux fois, trois fois. À un moment donné, je lui dis, bon, tu me gonfles, t'as toujours un chewing-gum. Non, c'est pas vrai, je l'ai jeté, j'en ai repris un. Je lui fais, mais donc t'en as repris un. Donc volontairement, à nouveau, tu omets la règle. Donc je lui dis, tu vas t'asseoir. Il me répond, je vais lui dire à l'antenne, je suis désolée. Qu'est-ce que là, la grosse pute?
À 10-11 ans?
Ouais, 6e.
Bah ça, c'est un conseil de discipline direct, on est d'accord.
Eh ben non.
Bah comment ça? Alors excusez-moi, parce que je suis prof. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de conseil de discipline? Parce que je suppose que vous avez fait un rapport. Pourquoi il n'y a pas eu de conseil de discipline tout de suite?
Honnêtement, je souhaite pas en parler à l'antenne parce que ça m'a. Bon, je veux vraiment pas trop en parler à l'antenne
parce
qu'on peut très bien savoir de où j'enseigne et ça peut me retomber dessus.
D'accord, Émilie.
Donc, mais non, il n'y a pas eu de conseil de discipline, voilà. Et nous, on est aussi face à ça, c'est-à-dire face à parfois. Je porte pas de jugement, mais face à parfois des directions qui ont leurs raisons, mais on laisse couler.
Tout à fait. Le pas de vague. Le pas de vague.
Voilà. Et c'est exactement. On n'a pas du tout tué le pas de vague. Hein. Pas du tout. Hein. On est tout dedans. Hein.
Bah merci en tout cas pour ce témoignage, Émilie, un témoignage absolument poignant et nécessaire sur ce que vous vivez vous aussi en collège. Merci vraiment, voilà, d'avoir appelé au 32-16 pour témoigner, Émilie. Voilà, Émilie a parlé de cette direction.
Des choses. C'est pour ça. Là, on rentre. Le diable est dans les détails. Moi, si Émilie, c'est ma collègue, je suis délégué syndical. Mmh. Je m'appelle pas Benjamin Hamar. Si je descends pas avec elle, exiger qu'il y ait un conseil de discipline. Je vous dis ça parce que ça s'est déjà produit maintes fois. Et si, pour une raison ou une autre, on fait un pas de vague, moi je monte en salle des profs, je réunis les collègues sur la récréation de 10h, je leur explique ce qui s'est passé, et j'ai dit, maintenant, on débraye, tant qu'il n'y a pas un conseil de discipline. Et comme par hasard, tout d'un coup, les choses se mettent en place.
C'est pour ça que j'ai dit, non, bien soutenu, Benjamin.
Les syndicats, oui, mais quand on dit les syndicats laissent seuls, non, c'est pas vrai. Moi, et je suis pas le seul, quand on est délégué syndical dans son bahut et qu'on a ce genre de situation, on les traite immédiatement et on joue un rôle de facilitateur. Qu'il y ait dans le pas de vague, il y a des tas d'acteurs et bien souvent il y a la hiérarchie.
Exactement.
Voilà. Les chefs, d'ailleurs, toujours les chefs d'établissement, au-dessus d'eux aussi.
Geoffrey est avec nous, il nous appelle d'Angers, il est employé en espace vert. Bonjour Geoffrey.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous, votre fils a été victime de harcèlement, il est encore plus petit, votre fils, il était en primaire, c'est ça?
C'est ça, en primaire, en fait, il était victime d'harcèlement par des camarades de son école.
Mais c'est quoi du harcèlement? Il a été frappé, il a été insulté?
Il a été frappé, il a été insulté, des menaces psychologiques aussi. C'est-à-dire, vous vous rendez compte quand même à mon fils qui est en primaire, qui est en CM1 ou CM2, ou même c'était avant.
Ah, donc il avait 8 ans, quoi.
D'aller se suicider, qu'il fallait pas qu'il existe, etc.
Ah, mon Dieu. Bah oui, mais c'est terrible. Et ça s'est soldé comment, cette histoire, Geoffrey?
On a fait les choses dans l'ordre. Donc, premièrement, on a été convoqué avec la professeure pour parler de ça. Donc, la professeure a dit qu'elle ferait attention. Après, je sais que c'est compliqué pour eux, mais il s'est rien passé. On a eu des rendez-vous avec le directeur. Le directeur nous a dit, c'est des enfants qui jouent, faut pas penser à mal.
Super.
Après ces choses-là, nous, on a décidé, en fait, devant le directeur, j'ai dit comme quoi j'allais justement porter plainte. Et si ça marchait pas, j'allais aller voir directement les parents. On m'a dit de pas en arriver là. On m'a dit, vous comprenez, monsieur, le problème, c'est que le papa, c'était surtout un seul élève, le papa d'un de ses élèves est violent avec lui. Donc j'ai dit, alors, en fait, vous le connaissez, vous savez qu'il est violent, mais il faut rien dire pour rien faire. Donc ça lui donne le droit de taper mon fils et de le menacer.
Bien sûr. Non, mais il y a plein de situations extrêmement, extrêmement complexes. Mais quand effectivement, il y a déjà de la violence en primaire, ça pose question. Merci beaucoup, Geoffrey, en tout cas, d'avoir témoigné au 32-16, Élise Godfarm.
Le harcèlement, c'est une absolue tragédie, mais c'est pas quelque chose qui date de il y a des 5 dernières années.
Les réseaux sociaux ont accentué. Hein.
Évidemment que les réseaux sociaux ont largement accentué, mais quand j'étais au collège, il y avait déjà un harcèlement qui était terrifiant.
Oui, enfin là, il y a quand même des gamins qui se sont suicidés.
Oui, parce
qu'il n'y a pas si longtemps que ça.
Maintenant, on n'y échappe plus. À l'époque, tu avais un problème avec un élève qui te harcelait, mais maintenant, par les réseaux sociaux, tu peux changer d'établissement et ça te suit comme une traînée de poudre.
Rémi, on termine avec des messages et je reçois notre consultation sur Twitter.
Ce message de Fred qui nous dit salut l'équipe, nos jeunes avancent, selon moi, sur le terrain de la barbarie, car nous laissons faire parents, justice, laxiste, état faible, politique. Empêchés, ils prennent la place qu'on leur laisse. L'heure doit être à la fermeté. Est-ce que l'État nous entend? Voilà ce que nous dit Fred.
Et on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Nos jeunes sont-ils devenus des barbares, Rémi?
Ouais, c'est pas de doute pour 89% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
RMC, midi 15h, Estelle Midi. RMC, les grandes gueules.
Bonjour, c'est Alain Marchal. Tout à l'heure, de 9h à midi, si vous composez le 32-16, vous pourrez discuter et débattre directement avec les GG, avec les grandes gueules. Entre 9h et midi, Didier Giraud, l'agriculteur de Saône-et-Loire, sera là. Tout comme Fatima Idbounois, la prof de français, et l'éditeur de bande dessinée, Mourad Boudjelal.
RMC, 9h midi, les grandes gueules. RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Si un jour vous ne captez pas RMC, pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Trop pressé aujourd'hui?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Forever Young, évidemment.
Un classique.
Mais oui, jeune pour la vie, Anthony. Selon une étude, quand même, 7 Français sur 10 se disent prêts à tester des techniques médicales innovantes pour ralentir le vieillissement. Mais il y a quoi, par exemple?
Alors, il y a plein de choses. En fait, c'est ce qu'on appelle le biohacking. C'est des pratiques qui sont très diverses, mais qui ont pour objectif de tout faire pour ralentir les effets du vieillissement sur le corps et sur l'esprit. Alors, ça peut aller de choses très simples et très saines. Faire attention à sa nutrition, faire attention à son sommeil, optimiser tout ça. Ça, c'est la base. Mais ça peut aller jusqu'à des choses beaucoup plus, j'allais dire, presque ésotériques parfois, parce que tout n'est pas prouvé scientifiquement. Alors, ça peut être tester des thérapies hormonales un peu expérimentales, voire des modifications génétiques. Donc, ça va très, très loin. Et il y a une étude qui a été menée auprès des Français. On a demandé à 2000 Français, c'est une étude de l'Institut Flash, ben voilà, leur avis par rapport au vieillissement, comment ils se sentent. Et ben, il y a 64% des Français qui seraient prêts à faire des choses, alors plus ou moins avancées, pour tenter de rester jeune. 64%, c'est ceux qui disent par exemple qu'ils seraient prêts à prendre des médicaments pour éviter de vieillir.
Bah, évidemment.
Donc ça, ok.
Je prends plein de compléments, par exemple.
Voilà, ça, vous êtes prêts.
Regardez
pour ça.
Comment ça marche.
Bah, ouais, ça marche vous formidablement quel âge bien. Bah, 25. 20,
et bah, 26. Exact. Et ben, c'est là.
Bah, voilà, c'est à peu près cohérent. Donc c'est à peu près efficace. Bon, ça, c'est assez classique. Il y a 21% de Français qui disent qu'ils accepteraient une modification génétique. C'est-à-dire que là, en gros, c'est on transforme votre ADN pour le rendre plus résistant aux maladies et aux effets du vieillissement. Alors, autour de la table,
oui. Oui. Bah oui.
C'est vrai, tu serais prête à ça.
Mais si c'est prouvé que
alors
ça marche.
C'est ça. Non, mais après, c'est ça. Et c'est qu'il faut qu'il y ait des preuves scientifiques que ce soit sans danger et que ça fonctionne absolument parfaitement. Tu as 23% qui se disent prêts pour des implants ou des prothèses. Donc, ça peut aller des genoux bioniques pour retrouver les genoux de ses 20 ans, mais jusqu'à l'implant cérébral qui va augmenter ta mémoire aussi.
Ah non. Ah
bah voilà.
Non.
Bah
non. Mais c'est pour le genou, oui. Mais pas le cerveau.
Non, mais c'est ça qui est intéressant. Je trouve c'est jusqu'où chacun va mettre le curseur. Mais il y a des gens qui poussent le curseur très, très loin. 20% seraient prêts à percevoir une transfusion de cellules ou de plasma de personnes plus jeunes en espérant rajeunir leur métabolisme. Alors ça, c'est une pratique qui est déjà faite, déjà utilisée aux États-Unis.
Par les sportifs.
Oui, alors entre autres, ouais, mais c'est très controversé.
Ne me regardez pas, Fred Hermel.
Non, mais surtout, il n'y a aucune validité scientifique établie sur cette technologie-là. Donc voilà, mais en tout cas.
Il y a des centres entiers de gens.
Oui, absolument, mais ça va quand même très très loin, quoi.
Alors là, c'est une étude, mais il y a certains qui mettent déjà ces principes en pratique.
Oui, alors l'exemple le plus célèbre, est-ce que vous avez vu le documentaire Netflix sur Brian Johnson?
Oui, il est terrifiant.
Il est absolument terrifiant. Alors, il est très intéressant parce que c'est un cobaye d'une certaine manière. C'est son propre cobaye. Brian Johnson, c'est un milliardaire. Il est presque milliardaire, pas tout à fait. Enfin, il est très très riche. Il a 47 ans et son but, c'est de retrouver ses 18 ans. Donc, physiquement, c'est-à-dire le corps et l'apparence de ses 18 ans et le métabolisme de ses 18 ans. Et pour ça, il fait tout un tas d'expériences scientifiques. En fait, il a délégué sa vie à une trentaine de médecins qu'il paye probablement très très cher et qui lui font faire tout un tas de trucs. Donc, tous les jours, il fait des IRM. Il a une routine. Je vous donne la routine quand même parce qu'elle est assez terrifiante. Donc, il se lève très très tôt, évidemment. Peser, exposition pendant quelques minutes à une lampe spéciale qui imite la lumière du soleil. Il prend sa température, il avale des pilules, plus de 100 comprimés par jour, des vitamines, des compléments alimentaires. Il porte un masque laser qui va stimuler la production de collagène pour avoir une belle peau. Il fait beaucoup de sport. Il mange des lentilles et des légumes vapeur avec un objectif de calories. C'est quasiment à la calorie près. Oui, c'est ça. Alors, il vit tout seul. Il se couche très, très tôt. Oui, mais je trouve que c'est intéressant parce que d'une certaine manière, il se sacrifie pour nous.
Merci, Brian.
Il veut tester, en fait, jusqu'où on peut aller dans le rajeunissement métabolique en utilisant toutes les avancées de la science et de la technologie, même si encore une fois, il y a des choses qui sont scientifiquement prouvées et d'autres qui sont plus de l'ordre de l'ésotérique ou en tout cas de choses qui ne sont pas encore validées scientifiquement.
Excusez-moi, je vois sur mes textes que vous avez mis, il a fait une thérapie de rajeunissement du pénis.
Ah oui, j'ai pas eu le temps d'en parler de ça.
Si vous avez le temps, vous avez une minute.
Ah bah alors écoutez, très bien. Oui, alors c'est à travers. J'ai pas tous les détails. Écoutez, je vous donne un petit peu ce que j'ai. Donc c'est de l'envoi d'ondes sonores qui sont censées favoriser la circulation sanguine et donc il teste toutes les
bien connu.
Le nombre de minutes où il reste en érection. Alors, j'ai plus le chiffre exact en tête.
Mélanie me dit dans l'oreillette, malheureusement, nous n'avons pas les images.
Ah oui, bah non, j'ai fait le montage. Bon, je vous ai épargné certaines choses. Mais en tout cas, ça fait partie, effectivement, des technologies qu'il utilise.
Mais il a une nana, il a.
Non, il vit tout seul. Parce que
c'est l'un des secrets.
C'est l'un des secrets.
La vie pourrie. C'est la meilleure.
Enfin, il est milliardaire, il aurait pu.
Oui, mais bon.
C'est vrai. Non, parce que lui, il veut dormir le plus longtemps possible. Il dit, il faut dormir très, très longtemps pour être le plus en forme possible, donc avoir une nana, c'est un peu compliqué, quoi.
Ça me terrifie. Ouais. Mais merci, Anthony. En tout cas, elle est venue me voir, vous faites très jeune, hein, d'ailleurs.
C'est vrai.
Anthony, bah ouais, je sais pas ce que vous prenez, mais je vous donne 32.
33. Oh, c'est trop gentil.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi. Tout RMC en podcast.
Sur l'appli RMC. Tous les soirs, entre 18h et 20h sur RMC, c'est Roten sans flamme avec Jérôme Roten.
2 heures de débat foot autour de l'actu du moment. Des invités d'exception, les analyses d'après-match, d'avant-match avec la Dream Team Foot RMC.
Et pour détendre tout ça, Julien Cazard vous livre son journal du foot à sa façon.
Roten sans flamme, du lundi au vendredi, 18h-20h sur RMC. Pour vos pauses musicales, téléchargez l'appli RMC.
RMC vous offre aussi une radio digitale 100% musicale.
C'est RMC Gold.
RMC, bien plus qu'une radio. Sur RMC, la nuit, c'est le meilleur de la journée. Rediff. RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Le meilleur de l'actu sur RMC. On commence avec les GG ce matin. 2 ans avec Emmanuel Macron et sans dissolution. Est-ce rassurant ou frustrant? Hier, le président de la République a annoncé le souhait de ne plus dissoudre l'Assemblée nationale d'ici l'élection présidentielle en 2027. Une situation extrêmement frustrante pour la militante écolo et membre des GG, Flora Gebali.
Je pense que les Français ont compris qu'on était dans une période de statu quo assez gênante, où les choses ne peuvent pas vraiment avancer, où on a un gouvernement qui ne sert pas à grand-chose. Donc moi, je serais plus pour qu'on avance la présidentielle d'un an et qu'on commence à rentrer dans un débat politique. Parce que moi, j'en ai marre d'être dans un pays où on ne fait pas de politique. Vous avez vu, ils avancent sur un pas en avant, trois pas en arrière, plus que jamais. Dès qu'ils avancent sur un sujet, ils reculent, après ils avancent, ils reculent. donc on n'avance pas.
Pardon, Fred Hermel, pas de dissolution d'ici 2027, c'est rassurant ou c'est frustrant?
Bah, moi je trouve ça bien. Moi je trouve ça bien. Voilà, parce que de toute façon, ça va être encore le souk s'il y a une dissolution. Donc on va régler ça avec.
Le souk.
Bah, tu préfères que je dise le bordel?
Non, mais
le bazar.
Le bazar.
Le bazar. Bah, bazar souk, c'est la même origine. Hein.
Bah oui.
Donc voilà. Non, enfin, de toute façon, et en plus, j'aimerais bien que François Bayrou tienne, voilà, qu'il tienne jusque-là, qu'on gère les affaires courantes d'ici là.
On ne fait rien, quoi.
Bah non, et puis là, en 2027, là, un vrai choix. Un vrai choix. Avec un président ou une présidente, et puis après, une dissolution qui interviendra et qui permettra de donner parce que ça se passe comme ça en général, une majorité à un gouvernement, à un président et à un gouvernement. Donc, oui, moi je trouve pas facile, parce que j'ai pas envie. Vous imaginez, on a les municipales là en 2026. Si on rajoute, on va être tout le temps en campagne électorale.
Là, on va un peu s'ennuyer, non?
Ah non, ça va aller.
Encore deux ans comme ça.
Oui, enfin, ça me rappelle Chirac, putain, deux ans, au voilà. Guignol. Non, mais je pense que là, on gère des choses tranquillement, on se prépare et que
ça, on gère tranquille. Hein,
attends,
ça,
ouais, pas de dissolution ne veut pas dire qu'on garde François Bayrou pendant encore deux ans. Non. Parce que Macron peut encore dire je change de gouvernement.
Ouais. Mais moi, ça,
c'est à
bien
sa discrétion. C'est à sa discrétion. Moi, je trouve ça plutôt. En fait, la dissolution, ça a tellement mis le pays à feu et à sang, encore oui. plus qu'il n'était, que même si la situation est catastrophique et tragique, oui, gardons une espèce de petite stabilité, qu'on ne se remène pas des élections, là, vous vous rendez compte, non, mais. En fait, comment c'était horrible et comment ça a fait baisser les masques de plein de candidats. Enfin, moi, ça m'a. C'était traumatisant pour moi, ces dernières élections.
C'est pas bon. C'est pas bon. Entrepreneuse.
Ah oui, bah ça c'est sûr que de toute façon ça gèle tous nos investissements potentiels. On se dit attends, que peut devenir la France? C'est dangereux pour l'économie d'un pays. Mais ouais, moi j'ai peur. De toute façon, les deux prochaines années vont être un bordel. Hein. Tant qu'il y aura encore Macron et qu'il y aura pas de majorité, de toute façon ça va être pour ajouter un nouveau mot, Fred, un brol. Ah, c'est comme ça qu'ils disent bazar, mais chez les Belges.
Je ne connaissais pas. Ah. Benjamin Hamard, on reste avec Emmanuel Macron encore pendant deux ans, ou alors on écoute Flora Gebali qui veut avancer les élections présidentielles?
Non, on n'avance pas les élections, bien entendu, mais par contre, moi, souvenez-vous, on a eu ces discussions au moment de Michel Barnier, au moment de François Bayrou. Moi, j'avais dit, de toute façon, la situation politique est totalement bloquée. Donc, effectivement, Emmanuel Macron confesse qu'il ne reproduira pas la dissolution, mais ça veut dire que le macronisme va se terminer en eau de boudin, dans une sorte de d'immobilisme et d'attentisme. Ça, alors, tu citais tout à l'heure Chirac, mais on peut remonter un peu plus loin dans l'histoire. Le docteur Queuille de la 4ème République, pour rien faire, c'était un président du Conseil, pour rien faire, surtout pour survivre politiquement, surtout ne rien faire, vivoter ainsi. Mais alors, sauf que politiquement, ça va être très compliqué, parce qu'il y a des réformes progressiste à faire dans ce pays. Il y a des sujets sérieux.
Capitalisation sur la retraite.
Non, pas du tout, parce que ça.
Je
sais bien que vous rigolez, mais c'est bien quand même de temps en temps de faire, de prendre des mesures qui sont soutenues par l'opinion et pas contre l'opinion. Et ça aura été la marque de fabrique d'Emmanuel Macron. Et donc là, on va vivre une période d'immobilisme et d'attentisme, mais surtout de fragilité politique. C'est-à-dire que le gouvernement ne pourra pas bouger une oreille, que ce soit François Bayrou ou un autre homme de paille ou une autre femme de paille, ils ne pourront pas bouger une oreille pendant deux ans. Et c'est bien que le macronisme, pour le coup, se termine dans cette flaque-là.
Alors François Bayrou, il bougera au moins une oreille d'ici le 14 juillet, parce que normalement, il doit nous annoncer à quelle sauce on va être mangé sur le budget. Mais on devrait l'entendre d'ici.
Oui, mais attention, il y a un risque de motion de censure. Il n'y a pas que le mouvement du président, il y a le mouvement de l'Assemblée. Il y a quand même le risque de la motion de censure. Il est très sérieux, ce risque.
Et il sera l'invité du JT de TF1 ce soir. Apolline Matin, ce matin sur RMC, le fossé se creuse-t-il entre les urbains et les ruraux? Une étude révélée ce matin par le journal Ouest France révèle que la quasi-totalité des ruraux se sentent déclassés, mal compris et mal représentés par les médias et par les politiques. Décryptage de ce qui les agace le plus avec notre journaliste Romain Hougue.
Parmi les stéréotypes les plus cités, on trouve passer beaucoup de temps avec ses vaches et ses poules. Quant au passage, seuls 2% des habitants de la campagne sont agriculteurs, mais aussi les clichés sur l'alcool, le tuning de sa moto, de sa voiture ou encore un mauvais goût en matière vestimentaire. Exemple type, selon cette étude, l'émission L'amour est dans le pré, citée comme un exemple de cette caricature de la campagne.
Fred Hermel, c'est vrai que parfois, les citadins parlent un peu effectivement des ruraux de cette manière. Il a raison, Romain Houg. Mais est-ce que vous, justement, qui venez de là, d'une commune très rurale, est-ce que vous vous sentez déclassé ou voire humilié par les citadins, on va dire?
Je l'ai été, bien sûr. Plus maintenant, parce que aujourd'hui, je suis aux côtés d'Estelle Denis à la télé. Donc,
c'est un bobo des villes aujourd'hui.
Non, je suis pas un bobo. Ah non. Je suis un citadin. Mais je viens de la campagne et je retournerai à la campagne. Non, mais c'est vrai que souvent, j'ai été très surpris quand j'ai commencé à habiter dans des capitales, etc., de la méconnaissance de la vie à la campagne chez les gens qui habitent en ville, en fait. Ah bon, il n'y a pas de métro? Ben non, il n'y a pas de métro. Enfin voilà, notamment sur la question de la voiture.
Oh, ça, nous, on s'est pas demandé s'il y avait un métro.
Mais la question de la voiture, les gens ne comprennent pas ce qu'est le fait d'avoir 2 bus par jour, par exemple. D'avoir fait toute sa scolarité en car scolaire. C'est des choses, le fait de... Il y a une méconnaissance, et surtout, je pense qu'en terminale, j'avais une prof parisienne.
Il y a un mépris ou pas pour vous?
Ah oui, il y avait un mépris. Ah ouais, on avait une prof parisienne de philo, qui était une prof remplaçante, une jeune femme, etc., qui maîtrisait totalement notre côté provincial, et notre côté, alors, en plus on était des ch'tis, provincial, on était beaucoup de la campagne, etc. Il y avait du mépris. Un jour, elle nous avait dit, vous êtes d'une région culturellement sous-développée.
Oui, c'est un peu dur.
J'avais un peu réagi, j'avais déjà une grande gueule à l'époque, donc j'avais un peu réagi en lui disant que, oui, on était peut-être sous-développé, mais que nos mines avaient remonté la France quand les Parisiens s'amusaient. Mais ça, c'était autre chose. Donc oui, il y a une méconnaissance, et il y a toujours un petit mépris. Mais après, je le vis bien, hein, parce que je suis très très fier de là où je viens, mais vraiment très très fier.
Benjamin Maher, vous êtes d'accord avec ça? Il y a un peu un mépris de la ville pour la campagne?
Alors, ça c'est sans doute. Je pense surtout parce que les données, elles étaient liées, comme notamment à la classe politique et aux médias. Hein. Et moi, je suis convaincu qu'une très grande partie de la classe politique est totalement déconnectée du réel, de manière globale. Alors, bien évidemment, là, l'exemple que donnait Fred est juste sur la question des transports, mais plus généralement, par exemple, sur l'accès aux services publics.
Bien sûr.
Le mouvement des Gilets jaunes était en partie nourri par ce sentiment d'abandon, par une inaccessibilité des services publics dans un certain nombre de régions et de départements. Et ça, je pense que pour des responsables politiques, c'est quelque chose de stratosphérique qui leur échappe totalement dans l'appréhension.
Que ce soit en ville ou à la campagne, t'as les inconvénients, en ville t'as l'inconvénient du bruit, du prix des loyers, de plein de choses, et à la campagne,
non, mais après,
et t'as l'inconvénient du manque de services publics.
On analyse souvent ici quand même un certain nombre de débats politiques, etc. Les débats qui sont propres à la ruralité sont souvent largement euphémisés ou caricaturés.
Oui, c'est vrai.
Par exemple, une phrase, quand on a eu le débat il n'y a pas longtemps. Est-ce que s'en prendre aux chasseurs, c'est s'en prendre à la ruralité? Et moi, j'avais dit justement, non, en fait, les chasseurs ne sont qu'un des acteurs d'une ruralité qui est très plurielle et diverse. Sûr. Voilà. Donc moi,
on dit les territoires maintenant.
Je déteste. Je vis en ruralité. Non, mais ça, c'est insupportable.
Je sais.
Non, mais c'est
pas moi qui l'ai inventé.
Je sais bien, mais non, mais c'est parce que je réagis à ça. C'est totalement caricatural de ce que nous sommes. Enfin, voilà, c'est. Moi, ça me gêne. Quand on dit, est-ce que t'es provincial? Je me sentirais provincial. Et ça me gêne pas. Paris-Province, tout ça, ça me gêne.
Et si je te dis, est-ce que tu es issu des territoires?
Je déteste. Est-ce que t'es un paysan? Est-ce que tu viens de la campagne? Oui, et j'en suis fier. Est-ce que t'es des territoires? Mais c'est. Tu sais, t'as l'impression, c'est quand même un peu territoire d'outre-mer, quoi. Tu sais, territoire, ça te ramène à 20 000 bornes d'ici, quoi.
À la périphérie.
Vraiment, c'est des trucs. Et puis, pardonne-moi, mais. La fin du cumul de mandat était catastrophique. La figure du député-maire, du sénateur-maire, etc. Mais si c'était des relais extrêmement importants sur la connaissance à Paris des réalités du terrain.
Appelé le matin, ce matin sur RMC, pour ou contre l'interdiction de TikTok aux mineurs? Une commission d'enquête à l'Assemblée nationale travaille actuellement sur les dangers que représentent plusieurs influenceurs sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Propos sexistes, haineux, violents, ils sont régulièrement véhiculés à une audience très jeune. Se pose donc la question de l'interdiction de ces plateformes aux mineurs. C'est ce qu'expliquait ce matin sur RMC Arthur Delaporte, député PS du Calvados et président de cette commission.
Notre commission d'enquête, c'est pas un tribunal, ça vise à comprendre des mécanismes. Donc nous, on n'est pas là pour les punir eux, mais on est là surtout parce qu'on auditionne TikTok jeudi prochain et qu'on demandera à TikTok aussi de nous expliquer pourquoi il laisse ses contenus sur des plateformes qui sont accessibles aux mineurs. Et donc il y a un enjeu premier, c'est la régulation de l'âge. Comment on fait en sorte que des moins de 13 ans, mais plus largement des mineurs, n'aient pas accès à des choses qui soient interdites aux mineurs? Donc ça, c'est la première chose qu'on doit faire. Ça doit se faire au niveau français, mais surtout au niveau européen.
Élise Goldfarb, est-ce qu'il faut interdire TikTok aux mineurs ?
Mais, enfin, évidemment, mais c'est censé être déjà le cas. Les moins de 15 ans et les moins de 13 ans, en fonction des plateformes, n'ont déjà pas le droit d'y accéder. Pour autant, bah, ils y accèdent comme une lettre à la poste. C'est comme le porno, je veux dire, c'est interdit aux moins de 18 ans. Moi, j'ai vu mon premier porno à 12 ans. Personne ne m'a interdit d'aller sur le site. Donc, en fait, je veux bien qu'ils fassent des déclarations, les députés, pour dire « Oh, on va l'interdire aux mineurs ». Ah bon, comment ? Comment tu fais pour l'interdire aux mineurs ? Tu choisis ta date de naissance quand tu t'inscris. Donc comment tu fais ? Moi, quand je me suis inscrite sur Facebook en 2008, j'ai mis que j'avais 35 ans, alors que j'en avais 15.
Oui, peut-être. Si tu demandes une carte d'identité,
mais tu n'as pas le droit pour l'instant de demander une carte d'identité. C'est contraire au RGPD. C'est contraire à plein de lois éthiques. Donc oui, moi je suis d'accord. S'ils imposent, s'ils arrivent à changer quelque chose et faire en sorte qu'on soit obligé de montrer nos pièces d'identité, de la scanner pour pouvoir se faire un compte. Mais allons-y, Alonso. Pour autant, ça fait 10 ans qu'ils n'arrivent pas à le faire, 15 ans même, qu'ils n'arrivent pas à mettre cette réglementation. Parce qu'en réalité, elle changerait tout. Il y a tellement de chats, de bots russes, de faux comptes. Aujourd'hui, si en France, on interdisait tout ça, grâce à la présence d'une pièce d'identité, d'accord, mais en revanche, ça pose un problème éthique. C'est que demain, imagine-toi, t'es réfugiée iranienne et t'es en danger de mort en France. Comment tu fais pour être sur les réseaux sociaux si tu dois montrer ta pièce d'identité et que tu es forcément identifiable et identifié?
Non mais j'entends, évidemment c'est comme l'anonymat.
En fait, c'est ça,
c'est si comme l'anonymat sur les réseaux.
Exactement, c'est que tu n'es plus anonyme, ça enlève l'anonymat. Donc ils vont dire, bon bah comment on fait, on peut pas le faire. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Si on arrive à trouver des solutions, mais allons-y. Mais pour l'instant, écoutez, des députés dire il faut interdire, pour moi c'est des gens qui comprennent pas la réalité des réseaux sociaux. C'est déjà interdit en fait, pas aux mineurs mais aux moins de 15 ans ou aux moins de 13 ans. Personne ne le respecte. Moi, je suis tiktokeuse. Je reçois des messages de meufs de 8 ans, 9 ans. Je leur dis, mais elles m'envoient des messages en mode, est-ce qu'on peut se voir? Je leur dis, mais imagine si j'étais un pédophile. Enfin, fais attention.
T'as raison, t'as raison.
Et j'envoie à TikTok France. Je leur dis, regardez les messages que je reçois d'enfants qui veulent me rencontrer.
Mais ça, c'est la responsabilité des parents. Je suis désolée.
Je suis d'accord.
Pardon, mais
je suis d'accord.
Ta gamine de 8 ans, tu vois qu'elle est.
Mais il y a des parents.
D'où une gamine de 8 ans a un téléphone portable. Donc ça, c'est déjà un peu un problème. Et deuxièmement, ta gamine. Mais non, mais arrête. À un moment, faut arrêter de dédouaner.
Je sais, faut arrêter de dédouaner. Mais la
déjà,
réalité.
T'offres pas un téléphone portable à 7 ou 8 ans à ton gamin.
Oui.
Je suis désolée. Voilà. Et ensuite,
bah oui, mais tu vois bien si ton gamin. Pour des anges sécuritaires, il faut qu'ils aient un téléphone parce qu'ils rentrent de l'école tout seuls.
D'accord.
Et c'est dangereux.
Sauf que, pardon, mais si un parent, alors admettons, il y a ton truc sécuritaire.
Ils ont rien à faire là.
Offre un téléphone portable à un gamin de 8 ans, bah, comment il contrôle hein.
Mais je suis complètement d'accord.
Une fois que le gamin il est à la maison, bah, tu prends le téléphone et puis tu le mets dans un tiroir. Et puis autre chose, tu n'es pas obligé d'offrir à ton enfant un smartphone.
Ouais, tu prends
à 8 ans, tu prends un téléphone à couche et puis. Et puis voilà,
mais maintenant qu'on sait qu'il y a des parents qui sont pas capables de le faire.
Bah non mais
là,
bah, oui, mais, ah, bah oui, enfin bah,
ouais, mais
faut arrêter de tout excuser aussi, je suis désolée.
J'excuse pas tout,
bah,
mais
si,
en fait ce que je veux dire c'est que tu prévois quand même autre chose par-dessus pour protéger le fait que ça arrive quand même.
Bah déjà voilà, ce que disait Benjamin Hamard, un parent il achète pas un smartphone à un enfant de 7 ans, c'est déjà la base.
Les plateformes ont une responsabilité colossale aussi, les marques aussi. En fait quand t'es un petit ciblé par le marketing par exemple,
et alors,
sur des
il a l'argent pour s'acheter à 7 ans, il a l'argent pour s'acheter un téléphone portable.
Tu cadres un peu, tu joues ton rôle d'adulte. Faut arrêter de rigoler quand même. Enfin, il y a des parents qui sont désarmés, te disent ah mais comment veux-tu? Même des parents qui disent des fois oui mais comment voulez-vous qu'on leur refuse? Bon, en fait c'est simple, c'est en trois lettres, non.
Voilà. Bah oui, non,
merci.
Je suis d'accord avec vous.
Ça marche,
mais les plateformes ont une responsabilité colossale. Parce que quand t'es psy et que tu traînes sur Internet.
Mais t'as pas entraîné sur Internet
quand
t'es petit,
en fait.
Mais
il suffit qu'il y ait des parents qui soient pas attentifs, t'es sur ton ordi.
Ah ouais.
Mais moi, c'est comme ça. Les gars, j'ai vu mon premier porno en 5e, c'est horrible.
Aujourd'hui, c'est à l'âge de 9 ans.
Bah voilà.
Le premier
donc,
porno.
En fait,
CM2.
Et mes parents,
CM1.
Ils sont hyper prudents.
Sur Internet,
mes parents, ils étaient hyper prudents. Ils connaissaient les dangers d'Internet. Ils faisaient partie des premiers Français à avoir des smartphones. Quand même, j'ai quand même fini sur Internet.
Élise, il y a quand même le contrôle parental, bon sang. Les
mais
parents,
le
il y a quand même des leviers. Il faut arrêter ce discours de l'impuissance permanente. C'est pas
d'accord.
Vrai. Il y a des outils. Il y a des outils pour élever les gamins. Ou alors on n'en fait pas.
Je pense qu'on minimise la responsabilité des plateformes. TikTok joue un rôle cataclysmique. Vous vous rendez compte que sur TikTok, aujourd'hui, t'as des gens qui font la promotion de l'anorexie, qui font la promotion des intégrismes religieux, tous, il n'y en a pas. Il n'y a pas une religion qui est épargnée par l'intégrisme sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Même chez les juifs, j'en vois, je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Il y a de l'incitation à la violence, au harcèlement.
Ça, c'est bon. Rémi Barré, tu voulais rajouter quelque chose?
Très rapidement, je veux dire trois choses. Responsabilité des plateformes, de toute façon, elles sont contre-fiches. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a un bras de fer entre le gouvernement français et plusieurs sites pornographiques. Le gouvernement français voulait leur imposer un contrôle d'identité. Ils préfèrent suspendre en faisant le bras de fer. Bon, bref, les plateformes, elles sont contre-fiches. Deux, les parents. parents, la responsabilité des parents, elle est réelle. Pour preuve, le contrôle parental, aujourd'hui, il y a des sites d'application, c'est gratuit, okay. C'est facile d'installation, personne ne les installe. Et il ne faut pas négliger la volonté politique.
Exactement.
Pour preuve, là, le gouvernement a fait le bras de fer avec les sites pornographiques et a imposé désormais le contrôle parental sera automatiquement installé d'office, par défaut, sur les nouveaux téléphones. Il a fallu ça, cette volonté politique, parce que les parents ne le faisaient pas, alors que c'est gratuit.
Allez, on va terminer avec un hommage à Jeannot Rességuet, la voix du foot sur RMC, après 37 ans de carrière et 2587 matchs de foot commentés pour RMC. Jeannot Rességuet tire sa révérence, beaucoup d'émotions pour lui lors de son dernier match. C'était dimanche soir, comme il l'expliquait ce matin au GG.
C'était une soirée assez compliquée à gérer. La boule a commencé au ventre, après elle est montée un petit peu à la gorge quand il y a eu les différents témoignages, et notamment celui de ma fille Chloé à la fin de l'émission, qui était tout simplement assez surprenant, parce que c'est quelqu'un de très discret, très timide, et de l'entendre comme ça à la radio. Et puis ça a été un moment un peu particulier, mais Je me rends pas encore vraiment compte puisque je suis encore dans la maison jusqu'à la fin du mois, mais quelque part ça fait bizarre. C'est vrai qu'après 37 ans.
C'est terminé, c'est fini. Paris sur le toit de l'Europe. 14 ans d'attente pour les propriétaires qataris. 32 ans après Marseille, le football français remporte une deuxième Ligue des Champions et peut-être ça fait du bien.
Oh, ça met les frissons, ça va manquer la voix de Jeannot, Fred Hermel.
Et ça ne va pas simplement manquer à RMC.
Non,
il n'y a plus personne en France qui commente comme on doit commenter un match réellement. Pour moi, le vrai style, c'est le style Jeannot, qui ressemble à celui que je connais bien, qui est le style espagnol. Avec la passion, où on dit encore occasion et pas des mots bizarres comme situation.
Lui, il disait pas verticalité.
Verticalité, enfin, tu vois, les trucs. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des mots. Il y a des mots.
La verticalité.
Il y a une nouvelle langue aujourd'hui dans le football. C'est... Alors moi j'ai beaucoup bossé avec lui, j'ai tout fait avec lui. Enfin, j'ai fait des émissions, des commentaires de matchs à Madrid avec lui, etc. Un maître. Alors il y avait une petite technique que faisait Jeannot que je vais vous raconter aussi, c'est que quand tu commentes en duo à un moment, quand c'est à toi de parler, il te donne un petit coup de coude. Un petit coup de coude, comme ça, c'est ton tour et tout. Parce qu'après, pour choper la... Parce que moi, ça va, je ma voix, c'est bon, j'y arrive. Mais pour prendre la parole avec Jeannot, c'était dur. Hein, parce que le mec... Parce que Jeannot...
Il lâche pas
le micro, quoi. Donc, c'est fabuleux, quoi. Donc, bien sûr, moi, je l'aime beaucoup. Et je lui ai dit, en privé, toute l'amitié que j'ai pour lui. Il va nous manquer, mais... Voilà, c'est un choix de carrière. Il part pas vraiment à la retraite, mais c'est...
Il va passer du temps en famille, de Montauban.
Oui, parce qu'il a passé. Ce que les gens oublient, c'est que les reporters sportifs sont très peu chez eux.
Et surtout le week-end, ils sont géniaux.
Et voilà. Et donc, tu vois pas forcément ta famille, etc. Donc, sa femme et sa fille ont aussi un peu besoin de lui.
Voilà, il va aller passer du temps justement en famille, mais il va beaucoup nous manquer. Voilà, sa voix va énormément nous manquer et il va être très bien remplacé. Et dans les couloirs aussi, parce que toi, tu l'as côtoyé pendant longtemps.
J'allais dire Jeannot, c'est le pro, mais toujours aussi l'humilité à chaque fois que je croise dans le couloir. C'est rien, c'est un bonjour, mais on sait que le bonjour il est sincère et. Ça va manquer.
Et on le reconnaît, il y a de moins en moins de gens que tu reconnais comme ça à la voix. Jeannot Rességuet, tu l'entends au téléphone, tu le vois à 100 mètres. Évidemment, parce qu'il a la voix qui porte quand même. Tu reconnais tout de suite la voix de Jeannot Rességuet qui a donc commenté son dernier match pour RMC. C'était dimanche soir.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
Sur RMC, tous les matins dès 6h30, commencez la journée dans la bonne humeur avec Apolline Matin.
De l'écho, de l'actu, des débats, du rire dès le réveil, un journal toutes les demi-heures, les meilleurs invités et vous au 32-16.
RMC, Apolline Matin, du lundi au vendredi, 6h39.
Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC. RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16,
75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Tous les soirs, entre 18h et 20h sur RMC, c'est Roten sans flamme, avec Jérôme Roten.
Deux heures de débat foot, autour de l'actu du moment. Des invités d'exception, les analyses d'après-match, d'avant-match, avec la Dream Team Foot RMC.
Et pour détendre tout ça, Julien Cazard vous livre son journal du foot à sa façon.
Roten sans flamme, du lundi au vendredi, 18h-20h sur RMC. RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Allez, on va tout de suite s'intéresser au souhait du jour. Et ce souhait, c'est celui d'Amélie de Montchalin, la ministre chargée des comptes publics, qui appelle à réduire le nombre de fonctionnaires en France. Un nombre qui a augmenté de 23% en 25 ans. 62 000 agents ont encore été embauchés l'an dernier, alors même qu'Emmanuel Macron avait promis de réduire le nombre de fonctionnaires. Mais Rémi, concrètement, ça représente quel coût les fonctionnaires en France et dans quel secteur sont-ils les plus nombreux ?
Le coût, 346 milliards 200 millions d'euros en 2024, soit 12,3% du produit intérieur brut. La France compte aujourd'hui 5 800 000 fonctionnaires, des effectifs qui l'ont dit, qui ont progressé donc de 23% en 25 ans, contre seulement plus 14% pour la population. Rien qu'en 2023, 62 000 agents supplémentaires ont été recrutés, alors même qu'en 2017, tu l'as évoqué également, Emmanuel Macron promettait 120 000 suppressions de postes dans la fonction publique. Une fonction publique tout de même, il faut le noter, c'est important, loin d'être homogène. Il y a d'abord la fonction publique d'État, qui regroupe notamment les policiers ou encore les enseignants. Là, les effectifs ont progressé de seulement 7%. Vient ensuite la fonction publique hospitalière, avec une progression de 36%. Mais là encore, il y a une logique face au vieillissement de la population ou encore face à la crise Covid. Là, on parle bien sur les 25 dernières années.
Et ça peut être aussi beaucoup d'administratifs.
C'est vrai, mais là où il faut chercher, et là, tu n'as pas besoin de chercher de l'administratif, le dérapage, c'est au sein des collectivités locales, régions, départements, communes ou communautés de communes. La hausse, là, est de 46%. En 25 ans. À elle seule, ces collectivités locales représentent la moitié de l'augmentation des effectifs de fonctionnaires. Récemment, la Cour des comptes a d'ailleurs avancé une piste, revenir aux effectifs territoriaux du début des années 2010, soit l'époque des derniers transferts de compétences entre l'État et les collectivités. Ça représenterait quand même 100 000 postes en moins, pour 4 100 millions d'euros d'économies par an d'ici 2030.
Emmanuel Macron voulait en supprimer 120 000 avant de faire marche arrière deux ans après le début de son premier quinquennat. Y a-t-il trop de fonctionnaires en France ? Est-ce qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires ? Élise Goldfarb.
Alors, c'est une question qu'il faut nuancer pour moi. Waouh, pardon. C'est un problème qu'il faut nuancer. C'est-à-dire que, oui, en l'espèce, moi, je pense qu'il y a trop de fonctionnaires. En revanche, quand on montre des chiffres pour dire, par exemple, qu'il y a plus de 36% de fonctionnaires dans le domaine du médical, moi, je trouve ça capital.
Oui. Il faut si c'est les soignants, plus. Parce que c'est de l'administratif. Ah,
oui. Mais peut-être que parfois, on a besoin de plus d'administratifs dans le système hospitalier. En revanche, par exemple, on a énormément besoin de professeurs, d'enseignants. Donc ça, il faut qu'il y ait plus de fonctionnaires en ce sens. En revanche, en tant qu'entrepreneuse, j'ai vu quand j'ai monté ma boîte à quel point en fait il y avait des doublons dans l'administration et dans la fonction de fonctionnaire. Par exemple, on pourrait aujourd'hui fusionner l'URSSAF et le CCF. Ce sont deux institutions, deux
c'est
entités.
Quoi, le CCF ?
Le CCF, c'est la caisse des congés payés, en
d'accord.
Gros. Qui régule, en fait, un peu comme l'URSSAF. C'est des trucs pour les salariés.
En fait, il faudrait fusionner les organismes.
Voilà. Si on les faisait fusionner, moi j'ai remarqué en créant ma boîte qu'en fait, je parlais à deux interlocuteurs différents pour monter ma boîte qui avaient exactement le même poste, mais dans deux institutions différentes qui en réalité font la même chose à la fin. Donc si on fusionnait plein d'institutions, si on faisait évoluer les métiers, aujourd'hui il y a des emplois dans le métier de fonctionnaire qui sont carrément limite des emplois fictifs, je veux dire, il y a des métiers dans l'informatique qui sont totalement obsolètes, des techniciens informatiques qui n'ont plus lieu d'être, vu qu'aujourd'hui on a l'IA qui peut tout remplacer en réalité. Donc en fait il faut juste faire ça intelligemment. On a besoin de plus de fonctionnaires dans les écoles, dans les hôpitaux et dans les postes, on va dire, régaliens, c'est-à-dire des choses qui peuvent faire avancer la société. Et sur l'administratif, on peut vraiment alléger. C'est une nécessité. Même.
Les communautés de communes qui gardent les deux communes qu'on crée une troisième.
Et je pense que c'est même relou pour les fonctionnaires eux-mêmes de se dire en fait mon travail il est doublonné par quelqu'un ailleurs, on ne communique pas entre nous. Le système n'avance pas, ça doit être tellement frustrant pour tellement de gens.
Alors Benjamin, vous êtes prof d'histoire géo, évidemment, loin de nous l'idée d'aller taper sur les fonctionnaires, c'est-à-dire les profs, encore une fois les médecins, tout ce qui est le judiciaire, etc. Mais d'aller de réfléchir sur effectivement des postes en doublon, sur encore une fois les collectivités territoriales, avec un nombre de communes qui diminue, mais toujours plus de fonctionnaires dans les collectivités territoriales. Est-ce que vous, en tant que fonctionnaire, en tant que syndicaliste, vous vous dites aussi peut-être que, en tout cas, tout ça est mal réparti et que, par exemple, tous les départs en retraite ne doivent pas être compensés.
Non, pas du tout. On a en réalité deux grands débats qui traversent la fonction publique. Soit pour nous dire qu'effectivement, les fonctionnaires sont trop nombreux. Et par contre, un autre débat où on pointe en permanence la question de la revalorisation salariale. Alors ce que dit Madame Montchalin, c'est oui, des fonctionnaires moins nombreux mais mieux payés. Alors écoutez, cette phrase, moi je l'ai entendue en 2007 dans le discours, un des discours inauguraux de Nicolas Sarkozy. Alors on a été moins nombreux avec la RGPP, par contre l'augmentation des salaires, on l'a jamais vu venir. Donc en réalité, quand on regarde, faut regarder quand même les chiffres, par exemple de l'OCDE. L'emploi public, c'est 19% de la population active au niveau de l'OCDE. En France, c'est 21%. Donc on est bien dans la médiane européenne. Certes, en France, on est plutôt dans la médiane haute.
C'est un Français sur 5.
Mais il y a environ 7 pays et des pays parmi les plus riches du monde, hein, notamment les pays scandinaves, où on a par exemple, ça monte à 30% d'emploi public.
Oui, mais c'est peut-être mieux réparti chez eux.
Mais et depuis 25 ans, certes, il y a ce chiffre-là qu'a donné Rémi, mais depuis la RGPP avec Nicolas Sarkozy ou la MAP avec Hollande, on a eu quand même des évolutions qui étaient un petit peu différentes. Par exemple, la France et la Pologne étaient les seuls pays de l'Union européenne entre 2019 et 2021 où l'emploi public a augmenté moins vite que le privé. Et il y a eu des coupes dans la fonction publique qui ont fait des dégâts. Aujourd'hui, vous savez, au CAPES, pour les enseignants, il y a une diminution depuis les années 2000, depuis donc 25 ans, 75% de baisse des chiffres de postes proposés au CAPES. 75%.
Mais ça c'est voilà dramatique. Pourquoi, ça, c'est dramatique.
Voilà pourquoi aujourd'hui Emmanuel Macron et ses premiers ministres ne s'amusent plus à dire, comme ils l'ont dit à la rentrée 2023, il n'y aura aucune rentrée, aucune classe sans prof. Ils ne s'amusent plus à dire ça parce que nommer 850 000 enseignants pour les 12 millions d'élèves, ils ne sont pas en capacité de le faire. Ils ont mis en place en janvier 2025 une loi sur le ratio entre les soignants et les patients, parce qu'en fait les soignants sont débordés littéralement dans les hôpitaux. Donc on a en réalité, tout à l'heure, à travers le fait divers atroce qu'on a évoqué en début des émissions, on se rend compte de quoi. Vous m'avez dit vous-même, ça n'est pas une exception, et effectivement ça n'est pas une exception, parce qu'en réalité les services publics se prennent la violence sociale en pleine tronche. Et alors les profs par exemple n'ont pas vocation à être à subir une telle violence sociale, et pourtant ils la prennent. Donc encore une fois, Madame Montchalin, elle aborde cette question elle a des dépenses budgétaires à faire, elle veut les faire, encore une fois c'est le marronnier sur le dos des fonctionnaires. Et moi je suis pas d'accord avec ça. D'accord. Cette solution, on l'a entendu, elle est totalement éculée. D'accord. Et elle répond pas à la question de la dégradation des services publics. Il y a une dégradation des services publics terrible.
Alors
c'est pas en coupant, en baissant le nombre de fonctionnaires qu'on va régler cette question de dégradation des services publics.
Ça, tout le monde est d'accord avec toi sur la dégradation des services publics, sur le fait qu'il n'y ait pas assez de médecins, d'infirmières, de profs. Ça, tout le monde est d'accord avec toi, Benjamin. Après, je suis désolée, mais on va voir le sondage tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup de Français qui se rendent bien compte quand même qu'il y a des emplois, il y a des gens, ils pourraient être employés peut-être plus efficacement ailleurs. Il y a plein de choses qui parfois posent question. Je veux dire, Benjamin, moi, je côtoie des profs qui me parlent de pléthore de personnel dans les rectorats, etc., qui sont assez hallucinés. Les médecins, ils te parlent d'un nombre d'administratifs dans les hôpitaux qui est hallucinant et qui les empêche en plus de faire leur métier correctement. Donc en fait, voilà, il y a des coins où certainement il y a trop de fonctionnaires, où c'est mal, en tout cas c'est mal organisé. Mais Fred, est-ce que à un moment les fonctionnaires c'est tabou, on n'y touche pas, ou est-ce que il va quand même falloir se pencher aussi sur la question?
Tu as dit le mot tabou. En France, il y a un gros tabou, parce que le taux de syndicalisation en France il est extrêmement bas, mais il est très fort dans certains secteurs, et notamment dans la fonction publique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu dis fonctionnaire, mais tu parles de qui?
Mais c'est ça.
Mais non, tu ne sais pas, enfin, je veux dire, enfin, entre l'infirmière qui va te soigner et la personne à la mairie de ton quartier qui met 3 heures pour le petit document sur la carte d'identité, et là t'es là tu te retiens parce que tu sais que sinon ton dossier, non mais je vais pas dire de mal, mais
c'est du fonctionnaire bashing,
tu vois, t'es là et tu dis le petit papier ça a pris, mais je sais pas, un quart d'heure. Oh, est-ce que la signature, je vous jure, parce que je l'ai vécu, attention votre signature, est-ce qu'elle va rentrer dans le cadre? Et moi j'étais cool, il faisait bon, je réagis. Je dis, de toute façon, si je réagis, si je joue ma grande gueule, mon dossier va passer par en dessous. Donc je me suis tué, etc.
il y a aussi une question d'efficacité, de gestion des ressources humaines. Dans les entreprises privées, les gens qui travaillent moins que les autres, eh ben, ils sont mis de côté, ils sont pas promus, etc. Moi, je suis pour la promotion au sein de la fonction publique. Que les meilleurs réussissent, que ce soit pas...
Au mérite.
Au mérite. Pas simplement avancer avec les points. Les points avec le nombre d'années qui fait que tu progresses naturellement. Non, moi j'ai des gens proches de moi qui sont dans la fonction publique et qui sont écœurés de voir des gens.
Il y a des augmentations de salaire pour personne.
Rien. Qui ne foutent rien. Il y a beaucoup de planqués.
C'est réglé.
Il y a beaucoup de planqués parmi les fonctionnaires. Et il y a des gens merveilleux, la majorité.
Ils n'ont pas d'augmentation de salaire.
Qui n'arrivent pas à progresser.
Personne n'en a.
Parce qu'il y a des... Voilà, c'est tout. Mais qui n'arrivent pas à progresser parce qu'il y a des gens qui ne font rien et qui, parce qu'ils sont là depuis plus longtemps, continuent de progresser.
C'est pas à cause d'eux qu'il n'y a pas d'augmentation de salaire. C'est à cause des politiques publiques qui frappent tous les fonctionnaires. Et ce que tu viens de faire, c'est du fonctionnaire.
Oui, bah, il a le droit de le faire.
Bah, hein. Ouais, mais moi, je suis contre. Moi, je trouve ça scandaleux qu'on reste du fonctionnaire.
Alors, on a Agnès Verdier-Molinier, c'est notre invitée dans ce débat, directrice de la fondation IFRAP, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques.